France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
À ce jour, nous avons détecté 5917 exoplanètes. Parmi elles, on compte une grande majorité de super-Terres. Mais sont-elles vraiment semblables à notre planète ? Les super-Terres ont une importance historique car ce sont les premières à avoir été repérées. Mais leur nom prête à confusion. Cette catégorie de planètes, sans équivoque dans notre système solaire, désigne des mondes imposants, entre 2 à 10 masses terrestres. Pour le moment, aucune d'entre elles ne semble avoir les mêmes caractéristiques que notre bonne vieille Terre. Mais avec de futures missions comme Plateau de l'ESA, peut-être mettrons-nous la main sur une planète analogue à la nôtre, en orbite, autour d'un type d'étoile similaire au Soleil. Exoplanète, super-Terre en vue. Martin Turbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à Sorbonne Université et au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Nous sommes en ligne avec Franck Celsis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et spécialiste des exoplanètes. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez, en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources. C'est sur notre compte, @sciencecqfd. Alors quel est l'intérêt du concept de super-Terre ? Est-ce possible, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, d'estimer leur climat ? Et sont-elles plus propices à la vie ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, comment débusquer des planètes dans l'immensité de l'espace ? La question est posée en 2020 à Didier Queloz, c'est notre archive du jour.
La difficulté pour trouver une planète, c'est le fait que l'objet est à côté d'un astre extrêmement brillant. Donc il faut utiliser une astuce pour le détecter. Et l'astuce qu'on a utilisée, c'est de détecter l'effet de la planète sur son étoile. Alors l'effet qu'on a mesuré, c'est le changement régulier de vitesse de l'étoile. Quand vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, ça va modifier un tout petit peu la vitesse de l'étoile. La difficulté, c'est que cette modification, elle est extrêmement petite et elle est très difficile à mesurer. Donc on utilise des instruments qu'on appelle des spectrographes qui vont décomposer la lumière de l'étoile et on va utiliser un principe qui s'appelle l'effet Doppler qui va déplacer un tout petit peu des structures de raies spectrales. C'est une structure qu'il y a quand on décompose la lumière d'une étoile pour détecter ce mouvement. Et c'est comme ça que la planète a été trouvée. Et ce qui a été une grosse surprise, et pour nous et pour tout le monde, c'est que la planète trouvée n'était pas du tout attendue parce qu'elle est en orbite extrêmement rapprochée autour de son étoile. Elle met un peu plus de 4 jours pour tourner autour de son étoile. Et la planète ressemble à notre planète géante Jupiter. Et on n'a pas d'équivalent dans le système solaire. Et ça a été relativement difficile de convaincre la communauté qui a mis du temps pour en fait accepter cette découverte étonnante.
Voilà la voix de Didier Queloz sur France 24 en janvier 2020. Prix Nobel de physique 2019 avec Michel Mayor pour leur découverte de 51 Pegasi B en 1995, la toute première exoplanète. Alors on va parler évidemment des difficultés de leur détection, mais ce qui surprend tout de suite dans cette histoire, Martin Turbet, c'est que tout de suite cette planète ne ressemble à rien de ce que l'on connaît.
Bah effectivement, une des grandes surprises de l'étude et l'observation des exoplanètes, c'est que il semblerait, et maintenant on a acquis la conviction, qu'elles sont beaucoup plus diverses que les planètes dont on a accès dans le système solaire. Donc les planètes du système solaire, de Mercure jusqu'à Uranus, Neptune et à l'époque Pluton, nous montraient une certaine forme de diversité entre des planètes rocheuses, des planètes géantes, et on a découvert, dès la première exoplanète en 1995, une planète de type Jupiter chaud, planète géante très très proche de son étoile, et depuis on a découvert des planètes encore plus étranges, bizarres, surprenantes, et qui continuent de nous surprendre encore récemment.
Oui, puisque le JWST, le fameux James Webb Télescope, en fait des découvertes assez régulières. Franck Celsis, on a cette recherche en exoplanètes qui est quand même régulièrement rythmée de surprises, de curiosités.
Oui, alors après, c'est assez naturel parce que si tous les systèmes exoplanétaires, si toutes les exoplanètes autour d'autres étoiles avaient les mêmes caractéristiques que celles du système solaire, aujourd'hui, on n'aurait rien ou quasiment rien découvert. Donc, c'est parce qu'il y a des choses plus faciles à observer, et notamment, c'est parce qu'il y a des planètes plus grosses et plus proches de leur étoile que les techniques qu'on avait dès le milieu des années 90 ont commencé à donner des découvertes. Donc on a depuis cette première découverte de 51 Pegasi B qui était un Jupiter mais 100 fois plus près de son étoile que Jupiter ne l'est du Soleil et qui tournait non pas en des années mais en quelques jours autour de son étoile, on s'est habitué à explorer la population des exoplanètes par les objets les plus extrêmes et en allant petit à petit vers des choses qui ressemblent un petit peu plus au système solaire. Donc à partir du moment où ces exoplanètes existent et sont relativement communes, c'est tout à fait normal de trouver d'abord des choses atypiques par rapport au système solaire. Là où ça devient assez particulier, c'est qu'on est aussi capable de chiffrer maintenant ces populations, c'est de dire quelle proportion d'étoiles ont tel et tel type de planète, et que finalement, des planètes qui sont absentes du système solaire, et qui sont des planètes un peu plus grosses que la, qui sont des planètes plus grosses que la Terre, mais plus petites que Uranus et Neptune, eh bien, ces planètes-là sont très communes. Donc, il y a effectivement un effet de biais d'observation, mais il y a en même temps le fait que ces planètes qu'on n'a pas dans le système solaire s'avèrent finalement plutôt communes.
Ces planètes communes qui sont pour nous terriens extraordinaires, Martin Turbet, en effet, ce sont aussi ce qu'on appelle donc les super-terres. Ça, c'est une catégorie de planètes dont la définition était quand même un peu floue. Est-ce qu'on peut justement essayer de caractériser ensemble ce qu'est une super-terre ?
Oui, alors les premières super-terres, je mets des guillemets puisque c'est une nomenclature, une définition qui est un petit peu floue, ambiguë. Elles ont été découvertes à peu près 10 ans après la première découverte de la première exoplanète, dont on vient de parler tout à l'heure, donc à peu près dans le milieu des années 2000. Et au premier abord, la raison pour laquelle on les a appelées super-terres, c'est que c'était des planètes qui étaient découvertes et dont on était capable de mesurer soit la masse, soit le rayon, et que cette masse ou ce rayon était un peu plus significativement plus élevé que la Terre, typiquement des planètes de quelques dizaines typiquement de masse de la Terre. Et donc il a fallu, pour ces exoplanètes, ces planètes qui n'existent pas dans notre propre système solaire, leur donner un nom, et donc naturellement une des analogies, ça a été de se dire, bah voilà, on a une planète qui a à peu près 10 fois la masse de la Terre, bah, l'analogue le plus proche, c'est une version 10 fois plus grande de la Terre, une super Terre. Alors, on savait déjà à l'époque que l'analogie était un peu limitée, au sens où ces premières super Terres, je mets encore des guillemets, qui ont été découvertes, elles avaient des insolations, donc elles recevaient une quantité de lumière, donc elles avaient des températures attendues bien supérieures à celles de la Terre, donc a priori des objets au moins, peut-être en apparence similaires à la Terre, mais en fait très différents au moins de leur température. Et depuis, on a accumulé, comme l'a dit Franck tout à l'heure, un nombre de détections important pour ce type de planète-là, et on est maintenant capable de sonder beaucoup plus en profondeur de quoi sont faites ces planètes.
Dans le système solaire, en effet, la Terre est la plus grosse des planètes rocheuses, de sorte on n'a pas imaginé ni envisagé que des planètes rocheuses plus massives puissent exister, Franck Celsis.
Alors, en fait, disons qu'au départ, quand on cherchait les exoplanètes et qu'on ne les trouvait pas encore, et qu'on imaginait les projets pour les trouver, on était bien obligé de dire qu'on serait capable, avec tel ou tel instrument, de détecter un analogue de Jupiter ou un analogue d'une Terre. Et c'est là que ça devenait très difficile. C'est toujours très difficile aujourd'hui de détecter l'analogue d'une Terre autour d'un Soleil ou l'analogue de Jupiter autour d'un Soleil. Et grâce à la découverte de 51 Peg, des Jupiters chauds, et puis aussi d'autres planètes qui ont commencé à arriver, qui étaient atypiques par rapport au système solaire, on s'est un petit peu autorisé à imaginer pouvoir découvrir, non pas une Terre, mais une grosse Terre. C'est-à-dire se dire, ok, je ne suis pas capable de détecter une Terre autour du Soleil, mais je peux détecter quelque chose d'un peu plus gros autour du Soleil, voire je peux même détecter, on a aussi commencé à aller chercher autour d'autres types d'étoiles, des étoiles plus petites que le Soleil, plus rouges, moins lumineuses, ce qui a aussi permis de descendre en masse. Mais disons qu'on est logiquement allé explorer les petites planètes, après avoir découvert les planètes géantes, on est allé explorer les petites planètes en partant du côté des grosses planètes, et des planètes aussi les plus chaudes. Donc les toutes premières qui ont été trouvées sont des planètes qui font, mettons, pas loin de deux fois le rayon de la Terre, et extrêmement proche de leur étoile, un petit peu comme 51 Peg B de son étoile. Donc ça pourrait ne pas exister, et dans ce cas-là, on ne les aurait pas trouvées, mais ça existe. Et donc, et petit à petit, le jeu a été de se dire, ok, très bien, on trouve ces grosses planètes telluriques chaudes, essayons de voir si on ne peut pas en trouver des un petit peu moins grosses, et surtout des un petit peu moins chaudes. Et petit à petit, on y est arrivé.
des grosses planètes telluriques chaudes. On a donc ces super Terres, il y a aussi les mini-Neptunes. Martin Turbet, c'est des catégories qui chevauchent, donc identifier clairement qu'on est en présence d'une super Terre, c'est assez délicat.
Ouais, donc depuis que ce concept de super Terre a été proposé dans le milieu des années 2000, on a accumulé un nombre important de découvertes, de détections de ce type de planète-là. Notamment grâce à tout un tas de télescopes, notamment un télescope qui s'appelle Kepler, qui a eu un rôle assez important dans cette histoire. Et grâce à ces accumulations de détections, on a pu commencer à faire des statistiques. Donc savoir par exemple quelle était la quantité de planètes qui étaient par exemple entre la taille de la Terre et deux fois la taille de la Terre, entre deux fois la taille et trois fois la taille de la Terre. Et on a pu comme ça, en comptant les planètes, commencer à avoir des informations sur leur nature. Et en particulier, on s'est rendu compte, presque 10 ans plus tard, dans le milieu des années 2010, et ça c'est un des grands résultats dans l'étude des exoplanètes et de leur diversité, c'est qu'il semble exister une limite en rayon, une séparation en rayon entre deux populations d'exoplanètes. Des exoplanètes qui ont un rayon typiquement inférieur à 1,6 à 2 fois le rayon de la Terre, que l'on nomme aujourd'hui des super-Terres, et des planètes qui sont de l'autre côté, du côté des planètes typiquement supérieures à 1,6 à 2 fois le rayon de la Terre, qu'on appelle aujourd'hui des mini-Neptunes, et dont on pense, mais c'est encore un débat qui est en cours, que peut-être cette distinction en rayon s'explique pour les mini-Neptunes par la présence d'atmosphères, d'enveloppes épaisses d'hydrogène. Et donc finalement, pour résumer un peu cette histoire, les super-Terres, c'est une hypothèse que l'on est en train de tester, seraient des planètes similaires à la Terre de par leur composition, une planète rocheuse, en version un peu grande, et puis les mini-Neptunes seraient des planètes rocheuses avec une enveloppe d'hydrogène qui serait une sorte de version miniature des planètes géantes glacées du système solaire Uranus et Neptune.
On reviendra évidemment aussi sur la composition de ces objets-là, mais Franck Salsis, on vient d'évoquer le télescope Kepler qui a été mis en orbite en mars 2009, fin de mission en 2018. Ça, c'est un télescope qui a eu un rôle historique justement dans la découverte et la caractérisation de ces exoplanètes.
Oui, parce qu'il en a trouvé énormément. Alors, on a parlé tout à l'heure avec votre archive de la méthode qui consiste à révéler les planètes par le mouvement qu'elles impriment sur leur étoile, hein, et par effet Doppler, ce qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Et une autre méthode qui a été celle de la mission spatiale Corot, qui a pu détecter la première, entre guillemets, super Terre, hein, qui était Corot 7b, et Kepler, qui est venu juste après, sont basées sur la méthode des transits. Donc là, l'idée, c'est d'observer beaucoup d'étoiles en se disant que si les planètes sont suffisamment abondantes, si les exoplanètes sont suffisamment communes, il y aura suffisamment de systèmes planétaires qui seront vus par la tranche, qui seront bien orientés par rapport à nous, de façon à ce que, à chaque orbite, la planète passe devant le disque de l'étoile et fasse baisser un tout petit peu sa luminosité d'une façon qui soit détectable.
Comme une éclipse.
Petite éclipse.
Voilà.
Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le transit, et ça a permis à Kepler de détecter des milliers d'exoplanètes. Et là où vraiment la science planétaire intervient, et que là on peut éventuellement commencer à discuter la nature et à parler de super-Terre, c'est quand les deux méthodes peuvent être appliquées ensemble à un système. C'est-à-dire, par exemple, Kepler trouve une planète dont le rayon fait, mettons, 1,5 fois le rayon de la Terre autour d'une petite étoile rouge, et on pointe dessus un télescope au sol qui va mesurer la vitesse par spectroscopie Doppler plusieurs fois dans l'année, et va arriver à contraindre la masse et dire, la masse de cette planète, c'est, mettons, 7 fois la masse de la Terre, plus ou moins une fois la masse de la Terre. Et là, avec ces deux valeurs, on a accès à la densité de la planète. On peut comparer à des modèles de structure interne et se dire, oui, cette planète, elle a l'air d'être plutôt du côté des planètes telluriques. Elle a l'air d'être assez similaire à la Terre en composition. C'est-à-dire, c'est essentiellement de la roche avec un noyau de métal. Alors que si on trouve une planète qui fait, mettons, pour une même masse, un rayon beaucoup plus grand, on va se dire, cette planète a une densité beaucoup plus faible. Et soit elle a une atmosphère riche en hydrogène, comme les planètes géantes du système solaire, qui contribuent beaucoup à ce rayon très important, soit elle peut avoir aussi beaucoup d'autres composés volatiles, essentiellement de l'eau, dans des quantités beaucoup plus importantes que la Terre, puisque toute l'eau terrestre, c'est moins de 0,1% de la masse de la Terre, mais on peut tout à fait avoir une planète qui contient, mettons, 10% d'eau. Et là, l'effet sur le rayon sera intermédiaire entre l'effet énorme de cette atmosphère d'hydrogène très étendue et l'effet très compact d'une composition de roche. Et on a ce continuum de composition dans lequel il est très difficile de faire le tri.
En tout cas, voilà, merci pour cet exposé simple sur comment déduire, obtenir la taille d'une exoplanète, sa masse, et donc en déduire sa densité. Les deux méthodes que vous venez de décrire, hein, la méthode des transits et des vitesses radiales, hein, sont les méthodes principales dans la recherche d'exoplanètes. Hein, elles représentent à elles seules plus de 96% des découvertes depuis 1995. Alors comment mieux caractériser ces super-terres et pourrions-nous mettre la main sur une Terre jumelle à la nôtre? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Martin Turbet et Franck Celsis, on part à la recherche d'exoplanètes et plus spécifiquement d'exoterres. On vient de voir comment sont nés les concepts de super-terre et de mini-Neptune, dans des termes qui font uniquement référence à la taille d'une exoplanète et qui ne suggèrent pas qu'elle soit nécessairement similaire à notre bonne vieille Terre. Alors, des planètes plus massives que la Terre, mais plus légères que les géantes de glace, on l'a évoqué il y a quelques instants, mais Martin Turbet, quelles sont leurs compositions? On a une grande variété quand même de compositions planétaires.
Alors c'est une question assez compliquée que vous posez là, parce que, donc, comme le disait Franck tout à l'heure, une des méthodes pour essayer d'accéder à la composition, c'est justement d'utiliser la densité d'une planète, que l'on déduit à partir de sa masse et de son rayon. Mais une des limitations de cette méthode, c'est qu'en fait on peut imaginer plusieurs types de compositions pour une planète qui expliquent un jeu de densité donné, entre guillemets. Pour une densité donnée pour une planète, il existe plusieurs solutions. Par exemple, si je prends l'exemple des mini-Neptunes, on peut très bien expliquer le rayon et la masse, et donc la densité de certaines mini-Neptunes, aussi bien par une planète qui possède une enveloppe épaisse d'hydrogène, ou une planète qui, par exemple, posséderait de grandes quantités d'eau, comme l'a dit Franck. Et donc, un des grands enjeux à l'heure actuelle, c'est justement d'essayer de trouver des stratégies pour essayer de lever ce qu'on appelle cette dégénérescence. Et donc là, la grande stratégie qui est en train d'être mise au point par notre communauté au sens large, c'est d'essayer de sonder les atmosphères de ces planètes pour essayer de savoir de quoi elles sont faites, d'hydrogène, peut-être de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, etc., etc.
Alors ça, pour sonder les atmosphères, on a, Franck Celsis, la spectrométrie de transit, la courbe de phase thermique ou les éclipses secondaires. En quoi consistent justement ces différentes méthodes?
Alors oui, on a commencé à avoir pas mal de techniques pour étudier les atmosphères. Beaucoup d'entre elles sont liées aux planètes qui présentent des transits. On a besoin de ces transits on a besoin de la référence de l'étoile pour nous aider. Alors quand on a une planète qui fait des transits, c'est-à-dire qui passe devant et derrière le disque de son étoile, on a plusieurs méthodes. La première, c'est de se dire, bon, mais on va faire un spectre de ce système qu'on ne résout pas, qui est une étoile et une planète qui lui passe devant. On va faire un spectre, on va décomposer la lumière avant, pendant et après le transit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si la sphère qui passe devant l'étoile n'a pas d'atmosphère, c'est juste vraiment une sphère solide, eh bien, la baisse de luminosité qu'on va voir, c'est juste un effet géométrique. C'est juste lié à la taille de la sphère et planète par rapport à la sphère étoile. Et qu'on observe ça dans l'UV, dans l'infrarouge, dans le visible, quelle que soit la fréquence de la lumière, quelle que soit sa longueur d'onde, on va toujours trouver la même chose. Si par contre, cette sphère planétaire, elle est entourée d'une atmosphère, eh bien, cette atmosphère, elle va, selon sa composition chimique, transmettre plus ou moins bien le rayonnement de l'étoile. Elle va l'absorber. Par exemple, imaginons qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère et qu'on observe à une longueur d'onde où la vapeur d'eau absorbe, la planète va paraître un peu plus grande qu'à une longueur d'onde où l'atmosphère est transparente. Donc finalement, on va faire une espèce de spectre du rayon en fonction de la couleur, si vous voulez, ou en fonction de la fréquence. Et si c'est constant à la précision des observations près, ben on ne sait pas, soit il n'y a pas d'atmosphère, soit elle est trop fine pour qu'on arrive à la détecter. Et si par contre on voit des variations de ce rayon qui en plus correspondent à des molécules simples comme le méthane, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, eh bien on a identifié des molécules. Ça, c'est pour le transit. Peut-être que Martin veut développer les autres méthodes.
Martin Turbet.
Donc, il existe tout un tas d'autres méthodes pour analogues, enfin qui sont complémentaires, pardon, à la méthode de la spectroscopie de transit, et notamment celles qui sont très prometteuses et très utilisées en ce moment, notamment dans le cadre d'un télescope qui s'appelle le télescope spatial James Webb, JWST. C'est des méthodes qui exploitent l'émission thermique qui sont émises par les planètes. Donc, vous savez peut-être que tout objet, tout corps qui a une température émet de la lumière. Nous, notre corps humain émet de la lumière, une planète comme la Terre émet aussi de la lumière. Et donc, plus une planète, de manière générale, est chaude, plus elle va émettre une quantité importante de lumière dans l'infrarouge thermique. Et donc, il existe plusieurs méthodes qui exploitent cette émission thermique. Une méthode qui s'appelle la méthode des éclipses secondaires, une méthode qui s'appelle les courbes de phase thermique. Dans les deux cas, on va exploiter le fait qu'une planète, en fonction du moment où on va l'observer, soit au cours de son orbite, soit quand elle passe derrière son étoile, va en fait nous émettre une certaine quantité de lumière. On va pouvoir analyser cette lumière, la récupérer, la collecter avec un télescope comme le télescope James Webb, la séparer en couleurs ou en longueur d'onde, et en fonction de ces informations, en déduire des informations telles que quelle est la température de la planète qu'on observe, possède-t-elle des molécules dans son atmosphère, et etc., etc.
Mais le James Webb, justement, l'un des systèmes d'exoplanètes qui l'observe le plus, c'est peut-être le système TRAPPIST, hein, système TRAPPIST 1 qui a été découvert en février 2017, qui a fait grand bruit, un système avec 7 planètes d'une taille comparable à celle de la Terre en orbite autour d'une étoile unique.
Elles sont 7 rocheuses de la taille de la Terre, toutes en orbite autour de la même étoile, TRAPPIST de son petit nom. Les astronomes ont donc découvert 7 planètes et leur étoile, un système complet, à moins de 40 années-lumière de nous. Une découverte excitante à plus d'un titre pour Michael Gillon, astronome à l'Université de Liège en Belgique.
Ces 7 planètes sont toutes à bonne distance de l'étoile pour permettre, en théorie, l'existence d'eau liquide à leur surface, au moins sur une partie de leur surface. Et pour 3 d'entre elles qui sont dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile, on pourrait même avoir des océans à la surface de ces planètes. Et bon, qui dit eau liquide dit peut-être vie, donc ces planètes ont un intérêt biologique important. Et ce qui rend ce système d'autant plus intéressant, c'est que ces planètes sont autour d'une étoile qui est à la fois très proche et très petite, ce qui va permettre leur étude détaillée, contrairement à toutes les autres planètes potentiellement habitable qui avait été détecté avant. Ici, on va pouvoir étudier de manière très détaillée ces planètes et notamment étudier leur composition atmosphérique en utilisant d'abord le télescope spatial Hubble et puis il va y avoir le télescope James Webb qui va être lancé l'année prochaine, qui va vraiment permettre de déterminer leur composition atmosphérique et éventuellement détecter des traces chimiques de vie dans leur atmosphère.
Franck Salsis, vous étiez en première ligne sur TRAPPIST. Depuis cette découverte, on sait que la planète B n'a pas d'atmosphère.
Alors oui, juste, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Michael Gillon. Quand les planètes ont été découvertes, il était très partisan de dire que toutes pourraient avoir de l'eau liquide, parce que son idée, c'est que ces planètes-là, si on suppose une planète, mettons, comme Mercure sans atmosphère, et qu'on regarde le point qui est face à l'étoile, il est chaud, et puis petit à petit, si on se déplace sur la planète et qu'on va vers le côté nuit, c'est de plus en plus froid, et en faisant ça, on passe par des températures qui sont compatibles avec l'eau liquide. Sauf que depuis maintenant, en travaillant avec Martin et moi, avec d'autres personnes, il est un peu plus familier avec les climats, et on peut pas s'amuser comme ça à mettre de l'eau juste à un endroit où la température va bien, parce que sinon elle s'évapore et puis elle va aller se condenser là où il fait froid. Donc on est obligé d'avoir des planètes dont le climat dans leur totalité permet l'eau liquide sur la planète. Et c'est pour ça que dans le cas de TRAPPIST 1, les planètes potentiellement qui pourraient avoir de l'eau liquide ne sont pas toutes les 7, mais plus particulièrement 3 d'entre elles qui ont des insolations tempérées, intermédiaires. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse. Et qu'est-ce qu'on disait?
Et son
disait,
atmosphère.
Oui, c'est ça, le TRAPPIST 1. Ben oui, on a observé ce système d'une façon un petit peu déraisonnable, ce qui fait que nos collègues nous jettent un petit peu des cailloux. Je ne sais plus si Martin a gardé le compte du nombre d'heures pointées sur ce système, mais je ne pense 300, pas dire de bêtises en disant que c'est plus que 300.
Mmh. Puisque vous aussi, Martin Turbet, vous étiez tous les deux sur le front de guerre.
Ouais, effectivement, je confirme ce qu'a dit Franck. C'est un système qui est fabuleux, qui, je pense, est probablement, je ne crois pas trop me tromper, même si je suis un peu biaisé, l'un, probablement le système qui intéresse le plus la communauté et peut-être aussi un peu le grand public. Et l'une des raisons à cela, c'est que c'est un système qui est composé de 7 exoplanètes qui sont a priori rocheuses en composition. Elles ont à peu près des masses, des rayons similaires à notre Terre. Et surtout, c'est un système, de par sa configuration, qui est, en tout cas au moins sur le papier, très intéressant d'un point de vue de sa caractérisation potentielle, entre guillemets. C'est un laboratoire naturel fantastique pour exploiter toutes les techniques dont on a parlé de caractérisation de l'atmosphère et que l'on est justement en train de mettre en place avec le télescope JWST.
Mais sur justement l'atmosphère sur ces corps-là, Martin Turbet, Trappiste a une étoile différente en termes de rayonnement, une étoile rouge où les planètes ont peut-être plus de difficultés, c'est ça, à garder leur atmosphère.
Ouais, tout à fait. Alors effectivement, pour remettre ça un petit peu en contexte, donc on a ces dernières années, notamment des collègues en France, au CEA, Elsa Ducrot, Pierre-Olivier Lagage, Michael Gillon, dont on vient d'entendre parler, on a pu, grâce à des projets d'observation sur le James Webb, observer en détail l'exoplanète Trappiste 1b. Il semblerait malheureusement, maintenant, alors toutes les hypothèses sont pas complètement closes, mais qu'avec une très grande probabilité, la planète B, qui est la planète la plus interne, qui est la plus exposée également au rayonnement de l'étoile, que cette planète-là ait aujourd'hui perdu son atmosphère. Ou en tout cas, aujourd'hui, elle n'a pas d'atmosphère. On pourrait dire que ce n'est pas totalement surprenant, au sens où Trappiste 1, cette étoile, en fait, elle est assez différente de notre Soleil. C'est une étoile qui est plus petite, mais aussi plus active, en tout cas qui a été beaucoup plus active par le passé, et notamment, cette étoile, quand elle était beaucoup plus jeune, était beaucoup plus lumineuse, pendant quelques centaines de millions d'années, en fait. Et on pense que pendant cette époque-là, pendant les premiers centaines de millions d'années d'évolution de l'étoile, et donc des planètes autour de cette étoile, les planètes, et notamment la baie, ont été fortement exposées, fortement irradiées par la lumière de l'étoile. Et c'est probablement à cette époque-là, en tout cas c'est une hypothèse, que ces planètes-là, au moins la baie, a perdu son atmosphère. Et maintenant, la grande quête vers laquelle on va, nous, notre communauté, c'est d'essayer de sonder les planètes les plus en plus externes dans le système, celles qui ont reçu le moins en moins d'irradiation, donc a priori les plus froides, celles qui sont a priori le plus susceptibles d'avoir gardé leur atmosphère, mais aussi celles qui ont a priori des températures de plus en plus clémentes.
En tout cas, pour la planète B, le fait de ne pas avoir d'atmosphère, ça met en péril la possibilité d'eau liquide, car il y a besoin d'atmosphère pour ça aussi. Franck Celsis, l'autre découverte majeure, 2016, c'est la planète la plus proche de nous, c'est l'exoplanète probablement tellurique, c'est Proxima B.
Oui, alors si je peux, on peut juste terminer avec Trappiste, cette histoire de la planète B. Donc oui, effectivement, on voit pas d'atmosphère. Effectivement, c'est pas juste que pour avoir de l'eau liquide, il faut une atmosphère. C'est que de l'eau liquide implique une atmosphère. Il n'y a pas de liquide qui ne soit pas en équilibre avec une contrepartie gazeuse. Et dans le cas de la vapeur d'eau, pour avoir de l'eau liquide, il faut au moins 6 millibars de vapeur d'eau et puis d'autres composés gazeux, très probablement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qui est formidable avec Trappiste 1b et bientôt avec la C, mais c'est pas encore fini, c'est que on voit les phases de cette planète. C'est-à-dire que quand la planète sort de son éclipse, quand elle sort d'être cachée derrière l'étoile, elle nous présente son côté jour qui est très chaud. Et là, on mesure la luminosité infrarouge, la température de ce côté chaud. Et petit à petit, dans son mouvement orbital, parce qu'on a observé le système pendant toute une orbite de la planète B, eh bien, on voit la phase de ne présenter plus qu'un quartier du côté jour. Et là, on voit la luminosité qui diminue. Et puis, petit à petit, on se rapproche du transit et la planète nous présente son côté nuit. Et là, la luminosité baisse quasiment de façon indétectable. Et donc, si on avait une atmosphère qui redistribuait la chaleur, comme sur Terre, comme sur Vénus, on aurait des différences de température bien moindres entre le côté jour et le côté nuit. Et le fait que, en fait, voilà, on ait un côté nuit glacial et un côté jour très chaud, et que ça corresponde exactement à ce qu'on s'attendrait à avoir si on avait grosso modo une planète comme Mercure sans atmosphère, ça tente à nous dire que la planète B, effectivement, en est dénuée. Pour la planète C, la suivante, les résultats sont pas encore complètement clairs en termes d'absence d'atmosphère. Donc ça, c'était pour Trappiste 1. Et puis bien sûr, après, il y aura les autres planètes du système, celles qui sont plus tempérées. Et le fait que les planètes les plus internes n'aient pas d'atmosphère, si on prend le cas du système solaire, ça ne présage en rien de la présence d'une atmosphère sur celles qui sont plus tempérées. Mercure, par exemple, dans le système solaire, n'a pas d'atmosphère. Alors, en effet, c'est une toute petite planète, Trappiste 1b est plus grosse, mais voilà, on peut pas se baser sur Trappiste 1b pour faire un diagnostic sur les autres. Ce qu'il est vrai, c'est que si Trappiste 1b avait une atmosphère, on aurait pu se dire, même dans un cas aussi extrême, même dans un cas comme ça, on peut avoir une atmosphère. Et là, ça aurait relaxé beaucoup des craintes que l'on peut avoir sur la capacité des planètes à garder une atmosphère autour de ces petites étoiles très actives. Donc on reste en suspens et on reste à l'écoute de ce que vont nous dire les autres planètes.
Martin Turmel,
Proxima B aussi, parce que
Martin qui travaille beaucoup dessus peut peut-être prendre la suite.
Eh ben Martin, vous jouez pour nous Proxima B, les excitations autour de cette exoplanète probablement tellurique.
Ouais, alors c'est une planète qui est vachement intéressante. Moi j'ai beaucoup travaillé dessus, notamment pendant le cadre de ma thèse. Ça remonte à quelques années maintenant. C'est une planète qui a été découverte en 2016, qui est une planète extrêmement intéressante, d'abord parce que elle aurait une masse et une température a priori comparable à celle de la Terre, mais aussi et surtout parce qu'elle tourne autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure. Malheureusement, enfin, une des difficultés qu'on a avec ce système, c'est que comme Proxima B ne transite pas devant son étoile, elle ne passe pas devant son étoile, elle ne passe pas derrière, on ne peut pas utiliser les techniques dont on a parlé jusque-là, en particulier la méthode de la spectroscopie de transit et des éclipses secondaires. Et donc notre meilleure chance, alors on a peut-être un petit espoir avec le James Webb, ça va avoir en cours, mais avec la méthode des courbes de phase thermique, mais notre plus grand espoir pour étudier cette planète-là et son atmosphère potentielle, c'est d'utiliser un télescope qui s'appelle le télescope européen extrêmement large, l'ELT, exactement, qui est actuellement en cours de construction et on a eu récemment une date de la potentielle première lumière, le premier photon qui atteindrait le télescope. Donc en gros, ça veut dire que ce télescope est prêt pour 2029, donc ça va arriver très très vite. Et on a l'espoir qu'avec plusieurs générations d'instruments qui seront sur l'ELT, on sera capable de venir en fait détecter la lumière qui serait émise par Proxima du Centaure, l'étoile, qui viendrait se réfléchir sur la surface et potentiellement l'atmosphère de la planète, qui reviendrait ensuite sur le télescope ELT. Par des techniques un peu compliquées, on va être capable d'analyser cette lumière-là et peut-être, si on a un peu de chance, de mettre en évidence une atmosphère, peut-être par exemple de la vapeur d'eau, de l'oxygène, des nuages, etc., etc.
Alors quels sont justement nos autres espoirs, les autres futures missions spatiales pour débusquer des planètes similaires à la nôtre, que nous réservent les prochains programmes d'observation et comment étudier de façon plus détaillée des exoplanètes de type terrestre? Restez avec nous. Télescope de Vanishing Twin en direct sur France Culture, car on braque nos télescopes sur les exotères et plus spécifiquement sur les super-terres, en compagnie de nos deux invités du jour, Martin Turbet, chercheur CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à Sorbonne Université et au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, et Franck Salsis, chercheur CNRS au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, lui aussi spécialiste des exoplanètes. On vient de parler de nos méthodes pour détecter ces objets lointains. Martin Turbet, parlons à présent de l'avenir de cette recherche. Il y a un projet nommé Plateau pour Planetary Transit and Oscillation of Stars de l'Agence spatiale européenne de l'ESA, hein. Une mission qui est prévue pour 2026. Alors, quelle est la spécificité de cette mission?
Alors déjà, juste pour revenir sur les planètes dont on a parlé avant, Proxima B, Trappiste 1, une de leurs caractéristiques communes, c'est que ce sont des planètes qui, en tout cas en apparence, peuvent ressembler à la Terre, de leur masse, leur rayon, leur température, mais elles ont comme point commun le fait qu'elles orbitent autour de toutes petites étoiles, des étoiles qu'on appelle des étoiles rouges ou des étoiles M. Donc des étoiles assez différentes de notre propre Soleil. Et en fait, la raison pour laquelle on observe et on essaie de caractériser ces planètes-là, c'est parce que, en fait, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il est extrêmement difficile, voire presque impossible, d'abord de trouver des planètes et ensuite de caractériser des planètes similaires à la Terre autour d'étoiles comme le Soleil. Et donc, l'un des grands enjeux de la mission Plateau, et une de ses motivations un peu profondes, c'est d'essayer d'aller chercher des planètes qui ont des masses, surtout des rayons, pardon, et des températures qui soient similaires à la Terre, mais autour d'étoiles qui soit plus semblable, en tout cas, que Trappiste et Proxima au Soleil.
Franck Salsis, alors comment va se distinguer ce télescope des autres télescopes chasseurs d'exoplanètes?
Alors, ben, en fait, il va essayer de faire ce que faisait Kepler, donc ce qu'a pu faire Kepler pendant 4 ans, mais avec en étant plus sensible, c'est-à-dire que pour Kepler a observé un même champ d'étoiles pendant 4 ans, donc 150 000 étoiles pendant 4 ans, et simplement avec une sensibilité, une qualité de signal un peu limite pour être capable de voir un objet du rayon, une planète comme la Terre, passer devant une étoile comme le Soleil une fois tous les 365 jours. Si vous observez pendant 4 ans, ben des transits, vous allez en voir 3, et ça ne fait pas beaucoup pour bien caractériser, bien détecter, bien caractériser. Donc l'idée, c'est d'observer sur une plus grande fraction du ciel pour se focaliser aussi sur des étoiles plus brillantes, ce qui facilite aussi à la fois la détection, mais ensuite, une fois que la planète est détectée, sa caractérisation, c'est-à-dire caractériser l'étoile elle-même. On oublie souvent, mais c'est très important pour, puisque tout ce qu'on mesure de la planète, son rayon, c'est relatif à l'étoile, donc il faut avoir une très bonne connaissance du rayon de l'étoile pour avoir le rayon de la planète. Pour pouvoir faire les vitesses radiales qui permettent de mesurer la masse, il faut aussi avoir une étoile brillante. Donc l'idée de plateau sera d'observer sur une plus grande partie du ciel, vraiment un très très grand domaine du ciel, et notamment des étoiles très brillantes. Le souci que je vois pour l'instant, tel que la mission plateau est définie, et puis elle commence à se confirmer et à se figer, c'est qu'un même champ ne sera pas observé si longtemps que ça. Il sera observé même bien moins longtemps que Kepler. Il sera observé pendant 2 ans. Ce qui veut dire que trouver des transits d'une planète qui serait vraiment l'analogue de la Terre, ça va être aussi très compliqué avec plateau. Par contre, Plato pourra certainement trouver des planètes à nouveau avec des orbites un peu plus courtes, hein, avec une période orbitale un peu plus petite que 365 jours, et donc autour d'étoiles qui sont un petit peu moins lumineuses que le Soleil, mais qui ne sont pas toutefois dans le domaine de ces naines rouges, dans lequel on est jusqu'à présent contraint. Donc il y a tout entre les deux, entre les étoiles comme le Soleil qui sont les étoiles G, et les étoiles autour desquelles on trouve les planètes Trappiste 1 ou Proxima B, qui sont des étoiles M. Et on a le domaine des K, qui est très prometteur, et où Plato pourrait nous donner des détections de planètes autour d'étoiles brillantes, pas trop lointaines, pour lesquelles on pourrait faire les vitesses radiales, donc avoir des mesures de densité, des mesures de masse et de rayons, et éventuellement un jour, avec un instrument qui s'y prêterait, essayer de sonder leurs atmosphères.
Oui, parce que pour le plateau ne dira rien de l'atmosphère. Cette mission va décoller, le satellite décollera en décembre 2026 de Kourou, en Guyane, pour observer en effet en continu quelques 200 000 étoiles. Mais pour l'atmosphère, ça, Martin Turbet, il faut attendre d'autres missions.
Tout à fait, pour aller chercher des atmosphères autour de planètes, autour de planètes qui sont elles-mêmes autour d'étoiles, un peu comme le Soleil, on a besoin de concepts instrumentaux vraiment de nouvelle génération. Et pour ça, on a deux grands projets dans notre communauté. Un qui est du côté des Américains, qui s'appelle le projet HWO, Habitable World Observatory, qui consisterait à aller observer la lumière qui serait réfléchie par ces planètes. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux, qui est soutenu, je pense, par une grande partie de la communauté, mais qui est actuellement en grand danger du fait de l'administration Trump, qui est en train de couper énormément de budget à la NASA, notamment, qui viserait cette mission-là. Puis on a un deuxième projet de mission qui s'appelle LIFE, qui lui consisterait à faire ce qu'on appelle de l'interférométrie dans l'infrarouge. En gros, ça consisterait à observer la lumière thermique de ces planètes-là. Et donc ces deux concepts qui sont très révolutionnaires sont des concepts technologiques avancés, mais qui représentent le plus grand espoir, et probablement le seul qu'on ait à l'heure actuelle, vraiment d'accéder à la composition atmosphérique de ces planètes qui seraient des analogues de la Terre autour d'étoiles qui soit analogue à notre Soleil.
Franck Salsis, LIFE, c'est une mission de l'ESA. Et l'ESA, d'ailleurs, a fait de cette mission une priorité élevée.
Oui, alors, ce concept d'interféromètre infrarouge, c'est-à-dire d'avoir plusieurs télescopes qui volent en formation dans l'espace pour compenser, c'est-à-dire c'est très difficile d'avoir un très grand télescope dans l'espace, mais là, l'idée, ce serait d'avoir des télescopes de taille modérée, éloignés de plusieurs centaines de mètres,
pour simuler un très grand télescope et faire ainsi un interféromètre. C'est une idée assez ancienne à l'ESA. Moi, j'ai travaillé dessus un projet similaire qui s'appelait Darwin quand j'étais en thèse. Et c'est une espèce de reboot un peu de ce concept. Maintenant qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de planètes, voilà, on part plus à la pêche. Enfin, disons qu'on part à la pêche dans une rivière que l'on sait désormais poissonneuse. Donc effectivement, il y a un comité de l'ESA qui s'appelle le Senior Committee qui a dit que cette mission était d'intérêt particulier. Mais c'est pas encore un projet de l'ESA au sens où l'ESA met pas encore énormément de moyens dans la recherche et le développement pour ce projet-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est finalement, quand je vous disais que si tous les systèmes étaient comme le système solaire, aujourd'hui, on n'aurait rien trouvé. Donc, on a eu la chance d'avoir que la nature ait pavé vraiment nos observations de plein de catégories, des super-terres, des mini-Neptunes, des Jupiters chauds, de planètes qui sont vraiment faciles, entre guillemets, à détecter. Mais si on veut aller vers des planètes telluriques tempérées autour d'étoiles de type solaire, on revient à cet objectif qui est l'analogue de la Terre et on revient à ces difficultés et à ce saut qualitatif énorme qu'il va falloir franchir. Et on ne sait toujours pas comment recenser ces planètes-là dans notre petit coin de galaxie. Par la méthode des transits, on est très biaisé par la géométrie d'observation qui fait que statistiquement, les systèmes qui transitent qu'on observe sont assez loin de nous. Et on voudrait juste savoir, comme on a la chance d'avoir pu le voir pour Proxima, qui est un cas particulier, savoir quelles sont parmi les étoiles voisines celles qui ont des planètes très intéressantes, tempérées, telluriques. Voilà, et pour ça, on est encore un peu dans l'exploration, et voilà, on a ces deux projets très ambitieux, LIFE et HWE.
Alors, quelles sont les autres méthodes de détection possibles ? On continue notre chasse aux exoplanètes avec le reportage du jour. On l'a dit, il existe plusieurs techniques pour détecter des exoplanètes, telles que les super-terres, et on s'intéresse à l'une d'entre elles, et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour, Natacha.
Vous êtes allé voir comment les planètes peuvent déformer la lumière des étoiles qui se trouvent derrière elles.
Tout à fait. Alors, moi, Natacha, tel que vous me voyez, du haut de mes 80 kilos, je ne suis clairement pas assez massif pour déformer l'espace-temps de manière significative. Mais une planète, quant à elle, peut le faire. D'ailleurs, elle le fait. Et le défi ensuite pour nous, c'est d'arriver à le détecter en regardant comment la lumière est déviée par ces anomalies gravitationnelles. C'est ce qui se passe. C'est que lorsqu'un objet massif comme une planète passe devant une étoile à la bonne distance, la théorie de la relativité générale prévoit qu'un anneau de lumière apparaisse dans nos télescopes. C'est l'anneau d'Einstein. Le phénomène est assez faible quand il est causé par une planète et pas par une galaxie entière. Donc on parle d'effet de micro-lentille gravitationnelle. Mais il est quand même suffisant pour découvrir des exoplanètes. À l'Institut d'astrophysique de Paris, j'ai rencontré l'astrophysicien Arnaud Cassan et ensemble, on s'est amusé à simuler cet effet gravitationnel à l'aide d'une petite lentille qui dévie la lumière.
La lentille gravitationnelle qu'on a ici, c'est en fait un analogue de la lentille gravitationnelle en plexiglas, donc ça ressemble vraiment à un pied de verre à vin cassé, avec une forme un peu évasée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la lentille, c'est-à-dire le pied de verre à vin, on va le mettre face à soi, et de l'autre côté, on va prendre un téléphone qu'on va allumer pour avoir une petite LED ou n'importe quelle LED, et en fait, on va faire passer devant la lentille la LED. Et on va d'abord être pas très bien aligné entre la lentille et la LED, et puis progressivement on va s'aligner.
Je mets le flash derrière la lentille.
Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait passer la lentille, on va regarder, et là on observe deux images de la LED, et progressivement on va avoir un anneau qui va se former, et quand on continue à déplacer la lentille par rapport à la LED, eh bien on voit qu'on retombe sur deux images de la LED, et puis après effectivement il n'y a plus qu'une seule image quand on est très loin.
Et donc l'effet là, parce que c'est un peu aveuglant même quand vous passez la lentille, l'effet il est double, c'est-à-dire qu'il y a cet anneau qui se forme quand on est pile aligné entre le verre à vin et la LED, mais il y a aussi un flash lumineux, la luminosité augmente à ce passage-là.
Voilà, la luminosité augmente parce qu'en fait, quand on est parfaitement aligné, c'est là où l'effet de lentille est maximum, et donc on a une très grande augmentation du flux lumineux, et en fait on peut obtenir facilement des dizaines de fois ou des centaines de fois, le maximum je crois que c'est 3000 fois la luminosité que l'étoile émet sans phénomène de lentille. Donc ça peut être un phénomène de lentille très fort.
Ce qui est un peu étonnant finalement, c'est que c'est une détection qui est jamais direct.
Voilà. L'avantage de cette méthode, on peut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de mesurer la lumière qui vient du système planétaire lui-même, puisque le seul effet qui nous intéresse est son effet de micro-lentille. C'est vraiment l'effet de loupe. On n'a pas besoin de voir la loupe pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc, cette méthode permet notamment de détecter des systèmes planétaires qui sont très 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 loin de nous, jusqu'à 20 000 années-lumière, c'est-à-dire vraiment jusqu'au centre galactique, alors que pour d'autres méthodes, elles sont limitées à quelques dizaines ou centaines d'années-lumière, justement parce qu'on n'a pas besoin de voir la lumière de la lentille. Donc ça, c'est vraiment aussi un côté très intéressant de cette méthode.
On a parlé tout à l'heure de l'aspect théorique avec justement cet anneau d'Einstein, mais en pratique, dans le cas de micro-lentilles gravitationnelles, comme c'est très compliqué d'observer cet anneau directement parce qu'il est extrêmement faible, ce qu'on va voir, c'est des flashs lumineux.
Oui, en effet, on observe des centaines de millions d'étoiles sans savoir si elles vont varier du tout. Et puis à un moment donné, ben, il y en a quelques-unes qui changent de luminosité. Et à ce moment-là, on se précipite dessus pour les observer en détail avec des observatoires tout au long du globe, en fait, pour vraiment avoir un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on va commencer à observer alors un flash, voire plusieurs flashs, des augmentations, des diminutions de lumière, et qui vont être caractéristiques de la manière dont est configuré le système planétaire qui joue le rôle de lentille. Donc ce qu'on voit ici, c'est, bon, là on est capable de voir l'anneau, etc., parce que c'est une lentille de plexiglas, mais en réalité, dans le vrai phénomène de lentille gravitationnelle, les images, les anneaux sont extrêmement proches l'un de l'autre. Donc quand on voit par exemple des images d'étoiles sur un CCD, c'est à peu près une seconde d'arc pour simplifier, et là c'est 1000 fois plus petit. Donc un télescope normal, en utilisant des capteurs CCD normal, en fait on n'est pas capable de voir l'anneau d'Einstein, de voir les images individuelles, mais ça on peut le faire avec de l'interférométrie. Par exemple, avec mon équipe, pour la première fois, on a réussi à voir directement ces arcs grâce à une technique d'interférométrie au Very Large Telescope Interferometer au Chili. Et là, on a été capable de reconstruire en fait les arcs en temps réel avec trois images qui ont montré que ces arcs étaient en rotation autour de l'étoile, ce qui est vraiment la vraie prédiction d'Einstein de 1936. C'était sa première prédiction. C'est sur cette prédiction qu'il avait dit qu'on n'observerait jamais cet effet de lentille. Donc on est content d'avoir démenti Einstein du point de vue observationnel.
Et concrètement, le fait d'avoir ces arcs-là, en plus du flash lumineux, dans l'analyse des données, qu'est-ce que ça va nous permettre d'avoir comme information supplémentaire ?
Alors, l'intérêt quand même principal, c'est la mesure de masse avec très très grande précision. Si on a juste le flash, alors après on peut avoir d'autres types d'observations. On a donc des précisions qui sont variables, mais si on observe les arcs, alors là on descend à des précisions absolument extraordinaires et on est capable de mesurer la masse de systèmes planétaires à moins de 1%. Donc ça permet de faire des mesures de masse à des précisions extrêmes.
Les objets qu'on peut détecter grâce à cette technique, il y en a certains qui sont indétectables sans cette technique. Il n'y a pas d'autres techniques qui pourraient permettre de les détecter. Je crois par exemple que c'est le cas de trous noirs qui ont une masse particulière.
Alors les trous noirs stellaires, qui sont vraiment des trous noirs isolés, hein, qui sont vraiment issus d'une étoile qui s'effondrait toute seule, et ben ça c'est parfaitement noir. On ne peut pas du tout les voir, il n'y a pas du tout de lumière qui s'en échappe. Et par contre, comme c'est un corps massif, ça peut donner lieu à des phénomènes de lentilles gravitationnelles. Et donc on recherche activement aussi ces trous noirs grâce à cette méthode. Et l'avantage, effectivement, c'est que c'est une des seules méthodes qui permet de le faire, puisqu'on n'a pas besoin de voir le trou noir pour le détecter.
Est-ce que c'est aussi le cas pour les super-terres ? Est-ce qu'il y a des super-terres qu'on ne peut pas détecter autrement qu'avec cette méthode ?
Alors les super-terres, on peut les détecter avec beaucoup de méthodes, mais la spécificité de cette méthode des micro-lentilles, c'est qu'on va les détecter loin de leur étoile, à plusieurs unités astronomiques. C'est-à-dire on peut détecter une super-terre à l'orbite de Jupiter, par exemple, pour donner une analogie au système solaire. Et ça, c'est des planètes qui sont très très compliquées à détecter par d'autres méthodes, qui vont détecter plutôt des planètes proches des étoiles. Donc en fait, c'est intéressant, parce que ces méthodes, elles sont complémentaires. En regardant avec différentes méthodes, on va détecter des exoplanètes, des super-terres proches des étoiles ou loin des étoiles. Et donc, on pourra comme ça avoir un panorama complet. Donc, c'est très important d'avoir cette diversité des méthodes. Et c'est un coup de chance, hein, puisqu'on n'a pas décidé des biais des méthodes et c'est là, elles sont là pour nous.
Merci Loïc Dutoit. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur l'appli Radio France. Voilà, on vient de l'entendre, la technique de la micro-lentille est surtout utile pour trouver des planètes situées loin de leur étoile. Alors pour celles qui sont dans leur zone habitable, Franck Celsis, quels sont les outils que l'on a à disposition pour détecter d'éventuelles et fameuses traces de vie?
Ah, alors là, c'est ça, on est dans quelque chose de très spéculatif. Être capable de détecter la présence de vie en utilisant des observations à distance, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, un, que il y a plusieurs conditions à ça. Ça veut dire que ça, c'est une condition sur laquelle aujourd'hui la science ne sait pas placer le curseur. Il faut que la vie soit grouillante dans la galaxie au point qu'elle soit présente sur des planètes qui sont à portée de télescope. Donc, ça veut dire qu'il faut des dizaines et des dizaines de milliers de planètes qui ont été transformées par le vivant et qui soient pas loin de nous. Donc, la deuxième condition, c'est qu'effectivement, il suffit pas qu'il y ait de la vie sur cette planète. Il faut que la vie, comme sur Terre, et chambouler un petit peu les grands cycles les cycles géochimiques et maintiennent l'atmosphère dans un état, c'est-à-dire qu'elle ait une influence très forte sur la composition de l'atmosphère. Troisième condition, c'est qu'il faut qu'on soit capable de sonder, d'analyser l'atmosphère avec suffisamment de précision, de détails, pour bien pouvoir faire le catalogue de tout ce qu'il y a dans cette atmosphère, de toutes les propriétés de cette atmosphère. Et enfin, la spéculation, c'est de se dire que peut-être avec cette information en main, on serait capable de faire la différence entre une planète sans vie d'une planète avec vie. Et pour ça, il va falloir observer non pas juste cette planète, mais des centaines et des centaines de planètes pour qu'on puisse se construire une compréhension de ce qu'est la nature des atmosphères planétaires, leur diversité, leur évolution, c'est-à-dire observer des planètes de différents types, de différentes masses, différentes insolations, différentes étoiles, différentes orbites, différents âges, pour que petit à petit on se fasse une idée de ce que la nature est capable de faire sans vie et des anomalies que la vie peut créer. Donc c'est, il faut pas se cacher que c'est un moteur de motivation derrière la recherche des exoplanètes et leur caractérisation, mais on en est extrêmement loin et ça reste très spéculatif, notamment par le fait qu'on ne sait pas s'il y a de la vie suffisamment proche de nous dans cette galaxie pour qu'elle soit à portée de télescope.
Martin Turbet, en plus sur ces questions, on a des vrais exemples de ce qu'il ne faut pas faire, de vrais contre-exemples.
Oui, récemment, notamment, on a une planète qui est très connue dans le domaine qui s'appelle K2-18b, qui a fait les gros titres. Probablement une partie des auditeurs de cette émission ont peut-être entendu parler de ça, l'annonce de détection de vie sur cette exoplanète, qui est une exoplanète qu'on pourrait qualifier de super Terre, mais Neptune, en tout cas dans cette catégorie, qui a un petit peu embrayé le début de cette émission. Et je pense que cette annonce, cette détection, en fait, elle est un peu le résumé de tout ce qu'il ne faut pas faire en science. C'est au mieux de la malhonnêteté scientifique, au pire de la fraude scientifique. Les mots sont assez forts, mais je le pense réellement. Je pense qu'une partie de nos collègues de la communauté le pense également. Il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, aussi bien méthodologiques que sur l'analyse dont les spectres ont été faits, sur des choix, des hypothèses qui ont été faites, sur les molécules, par exemple, qui ont été prises en considération dans l'interprétation de ces spectres. On ne va pas rentrer dans le détail des choses, mais pour faire écho à ce que dit Franck, et pour des gens qui écouteraient cette émission, ne vous laissez pas avoir par des annonces de détection de vie. On s'y attelle tous, les meilleurs scientifiques du sujet sont sur le coup, mais ça va prendre du temps, il va falloir être patient.
Patience donc. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbeau, mais pour prolonger le plaisir, j'invite nos auditeurs à se tourner vers votre podcast Franck Celsis, que vous animez avec votre collègue Lucie Lebouleux. C'est le podcast Venu d'ailleurs, merci à vous deux. Tout de suite, un tout autre sujet avec l'enfance de l'humanité, c'est la chronique avec science.
Que nous disent les enfants de l'émergence de la lignée humaine? Il n'est pas si rare de trouver des fossiles de jeunes, voire de très jeunes représentants de la lignée humaine au sens large du terme. Par exemple, on a retrouvé de nombreux vestiges d'enfants australopithèques. En revanche, pour les espèces du genre Homo, on en a beaucoup moins. Il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi a-t-on moins de vestiges d'enfants pour certaines espèces et pas pour d'autres? On sait que ces os ne sont pas particulièrement plus fragiles. Retrouver uniquement des adultes dans un gisement fossile peut être le signe que les jeunes n'y avaient tout simplement pas accès. C'est une première explication. Ou alors, seconde explication possible, il y a derrière cela une caractéristique tout à fait humaine. José Braga est paléo-anthropologue et professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse.
Quand on s'amuse à regarder la distribution en âge des enfants, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont plus âgés, et des adultes, même chose, plutôt jeunes, plutôt âgés, on peut établir une sorte de profil démographique, de profil de mortalité, on va dire, de ces populations. Et pour certaines espèces, on a des trous dans ce profil démographique, c'est-à-dire on a quasiment que des adultes et très très peu d'enfants. Et l'une des pistes, c'est que, eh bien, il y avait peu d'enfants qui mouraient, comme c'est le cas, par exemple, dans notre espèce à nous, heureusement, Sapiens sapiens, parce que notre espèce, Sapiens, elle a une caractéristique très importante par rapport aux autres primates, c'est qu'on prend beaucoup soin de nos enfants à partir de la naissance, et donc ils ont tendance à moins mourir que dans d'autres espèces de primates où on prend moins soin de ses enfants, mais on en produit plus. Donc ça, c'est une explication possible. Beaucoup plus d'attention portée aux enfants fait que si on a un profil démographique naturel dans un site archéologique, eh bien on va avoir moins d'enfants, tout simplement parce qu'ils sont moins morts par rapport à d'autres espèces.
Et jusqu'à présent, ces rares fossiles du genre Homo ont été un petit peu négligés. On ne les analysait pas systématiquement en détail, car la communauté scientifique s'est longtemps uniquement concentrée sur les restes ostéologiques adultes. Mais est-ce que ces enfants développent des traits propres à l'espèce très tôt dans leur développement ou très tard? En clair, est-ce que l'on voit dans leurs os les marques de l'espèce ou perçoit-on une sorte de continuum pour chacun des membres du genre Homo? C'est dans ce cadre qu'une nouvelle étude parue dans Nature Communication, c'est dont ce chercheur et le co-auteur s'est penché sur trois fragments de très anciens nourrissons provenant de trois sites distincts. Une mandibule d'Éthiopie qui est attribuée à un petit Homo habilis. Habilis, c'est la première espèce du genre humain. Erectus, c'est le second membre de la famille humaine et c'est à lui ou à une espèce très proche qu'ont été attribués les deux fragments restants provenant d'Afrique du Sud. Une mandibule a été retrouvée à Cromdraille et un maxillaire provient du site de Drimolène. Résultat, les enfants portent très tôt déjà les marques de leur espèce. Les trois vestiges datent de 2 millions d'années, mais ils sont si différents que cela appelle à repenser l'âge du début de l'humanité.
Pour la mandibule, c'est très intéressant, celle de Cromdraille, parce qu'elle est tellement moderne, c'est-à-dire que quand on la regarde, on ne peut pas la distinguer de la mandibule des petits-enfants d'aujourd'hui qui sont des petits sapiens. Et cette petite mandibule de Cromdraille est fondamentalement différente de celle trouvée en Éthiopie il y a maintenant plus de 50 ans. Et alors, ce que l'étude montre, c'est deux choses. C'est que, effectivement, ces différences observées sur les adultes, elles sont confirmées par celles observées sur des nourrissons. Que ces différences sont observées avant 2 millions d'années, puisque le petit erectus que nous avons en Afrique du Sud a clairement plus de 2 millions d'années, puisque les animaux qu'on trouve associés à cette petite mandibule appartiennent à des espèces qui disparaissent après 2 millions d'années. Et puis, ce que ça nous apprend également, c'est que si nous avons affaire à deux espèces d'humains très différentes avant 2 millions d'années, cela veut dire que l'ancêtre de ces deux espèces, qui est aussi un humain, a dû vivre quelques centaines de milliers d'années auparavant.
Si Habilis et Erectus étaient déjà si différents il y a 2 millions d'années, cela veut dire que le premier n'est pas le précurseur du second et qu'un ancêtre commun existait probablement autour de 3 millions d'années, soit peu après la disparition de Lucie. Et cela signifie également qu'Homo Erectus pourrait être né en Afrique australe et non pas en Afrique de l'Est. Et c'est au conditionnel évidemment parce qu'il faut encore étayer ce faisceau de preuves. La suite, ce sera donc d'aller chercher dans le registre fossile déjà acquis s'il n'y a pas des restes d'enfants autour de ces 2 millions d'années qui n'auraient pas encore été remarqués.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Lou Anger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales. À la réalisation, c'est Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. Et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.